Conférence privée, Père Philippe, 9 décembre 1982, Rimont.
Dans une grande famille, il y a toujours des événements. C'est bien évident. Alors, il y a toujours des départs, des arrivées. On ne peut pas mettre ça sur un grand écran, sur un grand panneau, n'est-ce pas ? Mais vous comprenez bien qu'il faut prier. Alors, notre frère Patrick est rentré, le Patrick du Saint-Rosaire est rentré, et nous en sommes dans la joie. Et puis, il y en a un autre qui est parti, le frère Yves. Il est parti, hein. Il a anticipé un départ. Il était assez fatigué ces derniers temps. Fatigue longue. Il est nordique, alors il est lent, vous voyez, comme moi, je suis nordique aussi, alors ça, ils sont comme ça, un peu plus lent. Là, ça lui faisait du bien de pouvoir aller se reposer un peu. C'est rien, il faut prier pour lui, il est reparti dans sa famille. Et puis, il aura un petit moment après se reposer du côté de... Ça ne marche pas, on n'entend rien? Vous n'entendez rien? Ah, qu'est-ce qui est... Quel est celui qui est prêt? Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est prêt. Parce que j'ose pas y toucher, moi. Hein? La technique, c'est très très beau. Après, il faut mettre plus proche de moi. Ah bon, ça marche autrement. Il n'y avait rien qui marchait. Ah bon, très bien, c'était une question de distance. Non, il n'y a pas de. Il est parti parce qu'il était fatigué ces derniers temps et qu'il devait partir pour le régiment. Il valait mieux qu'il parte un tout petit peu avant dans sa famille, un peu se reposer. Puis après, il ira sans doute à l'Arche aussi. Parce que l'Arche, vous savez, c'est le lieu. C'est notre infirmerie nationale. Alors, c'est. L'Arche, il y a la ferme. Ceux qui connaissent l'Arche savent. Ceux qui n'ont pas encore connu l'Arche, je ne leur demande pas d'y aller. Vous voyez. Et puis, il y a la clinique de l'enfant Jésus au Mans, où on demande toujours s'il n'y a pas encore de malades pour les envoyer, parce qu'elle serait tellement heureuse de recevoir des malades. C'est pour montrer qu'il y a beaucoup d'infirmerie autour de... Non, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce qu'il faut, c'est prier. C'est normal. Vous savez, c'est un peu fatal, ça. Il faut du temps avant de s'acclimater à une vie quand même qui est totalement différente de celle qu'on avait avant. Alors au début, il y a des grâces des temps, je dis ça pour ceux qui sont entrés, que ça dure le plus longtemps possible, il y a des grâces des temps. Là. Alors ces grâces des temps, il faut en profiter le plus qu'on peut. Mais au bout d'un certain temps, les écailles tombent, et là c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est une question de distance. On va le mettre là, vous savez, on va le mettre là pour inspecter davantage. Prince Strapontin. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, ce qu'il faut c'est demander à la Vierge Marie. Je sais très bien, ça se coûte toujours un tout petit peu de voir un frère qui s'en va, un frère qui rentre, ça fait, on est heureux qu'il rentre, mais on est désolé qu'il s'en aille. Faut pas, je crois qu'il faut se servir de cela pour une occasion de prier plus les uns pour les autres, de s'aider. C'est ça, je vous dis, on a tous connu ça pendant ces années d'études. Si je vous racontais tout ce que j'ai connu chez les dominicains, ça ne veut pas dire que je suis blindé. Non, mais on l'éprouve avec toujours la même émotion et avec le même amour, mais c'est forcé. Parce que c'est une vie dure. Dans le sens que, même si elle n'est pas austère d'un point de vue extraordinaire, c'est une vie dure. C'est une vie qui exige une certaine régularité qui n'est plus habituée aujourd'hui, qui n'est plus habituelle. Il faut le savoir que ça met du temps pour que notre biologique, parce que c'est une question biologique, heureusement qu'on a des médecins maintenant, n'est-ce pas ? Pour que notre biologique s'accoutume à un nouveau rythme de sommeil, de nourriture, d'attention, de faire que on ne se mette pas trop en colère et qu'il n'y ait pas trop d'éclats de voix, qu'on ne dorme pas trop longtemps, et ainsi de suite. Vous voyez, là, il y a tout un rythme biologique, ce seraient les diverses opérations biologiques de l'adaptation avant d'entrer pleinement. Un petit mot aussi pour les sœurs, parce que on vous a demandé de prier, comme Jean-Baptiste, en vous envoyant au désert, sans vous dire les motifs, c'est très bien, et il faut continuer de prier. J'en dis un mot ce soir, parce que les choses se précisent. Je vous ai dit que tant que nous n'étions pas ici, on ne pouvait rien préciser. Bon, maintenant qu'on est ici, la gestation pendant le mois d'avant se fait bien. Ne vous inquiétez pas. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui, je crois, est vraiment dans le sens de l'Esprit Saint. Parce que je vois que je n'aurais pas osé personnellement, connaissant trop bien Alix Parmentier, de lui demander cela. Alix Parmentier a été pendant quand même un certain temps au Carmel et elle est toujours restée très liée au Carmel. Alors je trouve assez beau que la Providence mette le Carmel proche, vous comprenez ? Il y a des mobilisations des bénédictins, des mobilisations des cisterciens, des mobilisations des dominicains. Tout ça, c'est pour vous former. Je ne sais pas ce que Saint-Jean doit être, mais ça doit être quand même un cocktail assez bien réussi. Le tout, c'est que ce soit bien dosé. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Bientôt, on aura un père jésuite âgé de venir compléter. Mais on a quand même, avec Alix Parmentier, quelqu'un qui connaît très bien le Carmel et qui l'aime beaucoup. Tous ceux qui connaissent Alix Parmentier savent très bien que c'est quelqu'un qui vide l'esprit du Carmel. Je ne l'aurais pas prémédité, parce que je n'aurais pas osé le demander. Et puis la Providence a fait que pratiquement toutes celles qui étaient là n'avaient qu'un seul désir, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu formé déjà et qui puisse venir les aider. Alors, Alix Parmentier, notre sœur, Alix, je ne sais pas comment on l'appellera, si on pouvait lui donner l'habit tout de suite, on ferait bien ça. Il faudra que j'en parle à Monseigneur, je crois qu'on pourrait les donner assez vite, parce qu'elles veulent avoir l'habit, pour voir quelle sera la différence avec les pères, les frères, mais puisque ce sont les sœurs de Saint-Jean, celles-là, elles doivent être le plus proches possible, je crois, ça me semble. On verra ça, c'est pas encore... Ces questions, vous savez, d'habits, il ne faut pas trop se... Nous, il ne faut rien dire, il faut les laisser choisir, hein. Bien qu'elles ont fait vœu de pauvreté par rapport à la mode, il faut laisser, parce que c'est quand même les sensibilités sont différentes. Alors il faut laisser ça. On dira ça un jour. Priez pour ça. Alors, Alix est venue pour être un peu au milieu d'elle, au milieu des autres, de nos sœurs, un élément pour les aider. Pas une autorité. Je l'ai dit ce matin, je l'aurais dit, elle a autorité, c'est bien évident, parce qu'il faut autrement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une communauté de base qu'on fonde, mais c'est vraiment une communauté de vie religieuse et de vie contemplative, de vie d'oraison. Alors, d'autres, évidemment, forcément, les choses se précisent. Alors, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres formules d'oblates séculières. Vous savez bien, il y a les oblates séculières. Les oblates séculières représentent justement celles qui, d'une certaine manière, ont fait une consécration intérieure, mais vivent dans le monde et peuvent vivre dans des petites communautés dans le monde. Et je crois que pratiquement, c'est ce qui se fera pour d'autres qui trouveraient que cette vie telle qu'elle sera vécue ici, et pour plus tard, telle qu'elle sera vécue dans des petits prieurés, serait peut-être trop contemplative, serait peut-être trop virligieuse. Alors il faut maintenir, et je crois qu'il faut maintenir des oblates séculières. et même des oblates séculières, peut-être formant des petites communautés. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez bien que celles qui vont être ici pensent vraiment ce qu'on a demandé du reste à Monseigneur, former d'ici peu une Pia Unio, et donc être officiellement, petit à petit, des religieuses, rattachées spirituellement à la communauté, vivant du même esprit. Pour les oblates séculières, c'est très différent, parce que là, il n'y a pas le point de vue, il n'y a qu'une consécration privée, donc c'est plus simple. Vous voyez ? Je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe de l'autre côté, puisqu'on vous demande de garder le silence, ne leur demandez pas ce qui se passe, hein, c'est pas la peine, je vous l'ai dit, et je ne vous cache rien, et je vous dis là exactement ce qui en est. Alors il y en a une qui va sans doute, du reste c'était, vous savez, Catherine Pellet, elle avait pensé un peu s'écarter l'année dernière pendant un an, pas du tout pour nous quitter, mais de fait, moi je lui ai conseillé aussi, je crois que c'est mieux pour le moment qu'elle puisse rester en lien, mais qu'elle s'écarte en trouvant quelque chose d'autre. Alors ça, ce n'est pas directement pour vous. Ce qu'il faut, c'est prier pour elle. D'autre part, vous avez su que le père Emmanuel avait eu un petit accroc de santé. J'ai eu des nouvelles hier, parce que notre cher Georges Bossy connaît très bien quelques médecins de l'hôpital de Gap, et donc il peut téléphoner. Je lui ai dit, téléphonez de ma part pour lui dire mille choses, qu'on prie beaucoup pour lui, qu'on est unis. Alors le premier coup de téléphone, c'était avant-hier, n'était pas mauvais. Hier, on disait, il y a quand même quelque chose, il faudra qu'il fasse attention un peu pour se reposer. J'ai beaucoup hésité d'y aller. On m'avait dit qu'il avait été plus malade, mon chauffeur était prêt à passer la nuit s'il le fallait, c'est Georges Bossy, pour aller, mais ça faisait quand même 4 heures d'Avignon. C'est pas loin, mais c'est quand même 4 heures aller, 4 heures retour, on est tout ça dans la nuit, étant donné qu'il fallait être à cette prédication d'Avignon à 6h15 à l'église, même à 6h à l'église pour confesser. 6 heures à l'église pour confesser, vous voyez le ministère, hein, c'est un bon exercice. 6 heures à l'église pour confesser, 6h15 qu'on célébrait avec avec notre père évêque, notre père archevêque, notre d'Avignon, n'est-ce pas ? Et la prédication, alors après, prédication évidemment à la messe, devant notre archevêque, et pas trop long, parce que l'archevêque. Faut pas trop long, mais quand même prêcher, et puis le soir, alors il y avait un autre public, ça fait deux différences. Mais c'est beau du reste, parce qu'ils y tiennent énormément, c'est très beau de voir combien la ville d'Avignon tient à cette retraite pour l'Immaculée Conception. C'est dans la cathédrale métropolitaine d'Avignon, donc la cathédrale des papes, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier, c'est la cathédrale des papes. Alors c'est là où se faisait, où les différentes paroisses viennent régulièrement. Je ne dis pas qu'il y a un monde fou, il y a quand même 300 personnes, 250 à peu près, tous les jours. Vous voyez, c'est quand même beau de voir ça en semaine, pendant la préparation pour l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception reste vraiment, hein, pour eux, la grande fête. Cette retraite se fait depuis le XVIIe siècle, 1648. Et vous ne devinerez jamais à cause de quoi. Parce qu'un prédicateur a dit que Marie n'était pas immaculée. Alors l'archevêque de ce temps a dit, eh bien, pour réparer, nous ferons une retraite chaque année. Vous voyez, ne faites pas trop de bêtises dans vos prédications futures pour faire des retraites partout comme ça. Mais c'est... Vous voyez, ça fait quand même, c'est beau, comme fidélité, je trouve ça très beau, j'ai trouvé ça très beau, et que les gens y tiennent, et ils ont vraiment un grand amour de suivre ces prédications, c'est beau. Alors, pour le Père Emmanuel, continuez de prier. C'est ceux qui le connaissent bien, qui n'hésitent pas d'en faire un courrier, gentil pour montrer s'il n'est pas déjà fait, n'est-ce pas, pour lui dire combien on l'aime et combien on est proche de lui, parce que ça fait partie du prolongement de la communauté. Je vais continuer avec vous, si vous voulez, cette réflexion auprès du mystère de Marie, pour comprendre mieux le caractère spécifique de la communauté Saint-Jean. C'est ça que nous cherchons ensemble, hein, parce que nous ne pouvons pas faire appel à la tradition. Alors à ce moment-là, on doit faire appel au Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Parce que s'il y avait déjà 50 ans de... Je vous dis, je vois uniquement que le Saint-Esprit veut rassembler, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que ça m'a été... C'est tout à fait comme ça que je voyais, que le Saint-Esprit voulait que dans la communauté Saint-Jean, tout soit repris par la Très Sainte Vierge, en profondeur, dans une souplesse qui est propre au cœur de Marie, de ces différents aspects de la spiritualité bénédictine, cistercienne, et je dis cistercienne parce que c'est Saint Bernard c'est pas Saint Benoît, c'est pas tout à fait la même chose, bien qu'il soit fils de Saint Benoît, mais c'est différent, dominicaine, carmélitaine, tout ça doit, je crois, être repris dans le cœur de Marie. Vous voyez, quand le Père Kolb dit que le mystère de l'Immaculée Conception qui nous est donné doit être une grande lumière qui nous permet de reprendre toute la théologie, je me demande si, au fond, le Père Kolb, en disant ça, ne nous conduit pas à comprendre que le mystère de l'Immaculée Conception doit être aussi dans l'ordre pratique, pas seulement dans l'ordre théologique, mais dans l'ordre pratique, une reprise de toute la vie contemplative et de toute la vie apostolique. Ça me frappe beaucoup. C'est Bethléem est très lié à l'Immaculée Conception et à l'Assomption. Or, de fait, à Lourdes, Marie lit l'Assomption et l'Immaculée Conception. Faut pas l'oublier. C'est Marie dans le ciel qui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et donc, je crois que Bethléem est lié au mystère de l'Immaculée Conception et au mystère de l'Assomption pour la contemplation dans ce qu'elle a de plus pur, de plus limpide, dans la lumière de Saint Bruno. Ce que nous voyons, la lecture de midi, nous relie à Saint Bruno, nous relie à Bethléem. Et c'est très bien ça, parce que ce sont quand même nos sœurs très proches et qui prient beaucoup pour nous. Vous savez bien, elles prient beaucoup. Elles demandent de temps en temps, est-ce que la communauté Saint-Jean prie pour nous autant que nous prions pour elles ? Je dis, c'est vous qui devez prier beaucoup plus pour nous. Donc ça, c'est bien évident. C'est le rôle des femmes. Hein. Elles doivent toujours beaucoup prier plus que pour les... Parce que les hommes, ils sont pris par d'autres activités. Les femmes, c'est toujours à l'état plus pur, leur contemplation, n'est-ce pas ? Et c'est leur rôle de prier pour ça. Et c'est très bien, il faut leur rappeler souvent qu'elles doivent prier pour nous, pour qu'on soit porté par cette prière. Mais je crois que pour la communauté Saint-Jean, c'est vraiment le mystère de l'Immaculée Conception qui reprend tout. La vie contemplative monastique, ou la vie monastique contemplative et la vie apostolique. Pour reprendre très fort à travers le cœur de Marie. Il faut souvent, souvent y revenir, ça, vous voyez. Et quand on réfléchit, parce que ça arrive de temps en temps, sur les questions, les diverses tendances, vous voyez, je vous ai dit qu'il ne fallait pas accentuer, qu'il fallait comprendre que l'unité était dans le cœur de Marie, et elle n'est pas parmi les membres de la communauté, ni en moi, c'est pas moi qui fais l'unité, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui fait l'unité. Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut faire l'unité. Il n'y a que son cœur immaculé. C'est du reste très beau. Il faut s'élever jusque-là pour trouver l'unité de la communauté Saint-Jean. Ça prouve qu'il y a une telle diversité, vous voyez. Parce qu'il faut s'élever jusqu'au cœur immaculé de Marie pour découvrir la grande diversité. Je crois qu'il faut cette diversité. C'est très important. Dans tout ordre contemplatif, monastique et contemplatif, il y a forcément ça. Ça ne peut pas être autrement. Il ne faut pas accentuer. Il faut essayer de comprendre que chacun... Essaie de comprendre ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est toujours auprès du cœur de Marie qu'on doit repenser tout. Et chaque fois qu'on sent des perspectives un peu différentes, n'opposons pas, mais mettons-les dans le cœur de Marie. Parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est dans le cœur de Marie qu'on doit comprendre les exigences de la vie monastique. Marie a vécu le mystère de la vie monastique d'une manière unique et plus forte et plus intense que n'importe quel autre moine. Elle a vécu pleinement la contemplation et elle a eu cet accueil extraordinaire. Un accueil merveilleux. Accueillir Jean auprès de la croix, c'est quand même quelque chose. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors il faut découvrir à travers le cœur de Marie et dans le cœur de Marie, découvrir cette profonde unité qui doit se faire, qui doit se réaliser progressivement dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors pendant ce temps de l'Avent, je vous ai dit, il faut vivre du silence de Marie. Et je crois ça très fort. Il faut vivre du silence de Marie. Il faut qu'il y ait une intériorité toujours plus grande. Il faut y tendre. Nous y tendons, je le sais bien que vous y tendez. Vous y tendez, mais il faut y tendre toujours plus. Parce qu'il n'y a pas de limite. On ne sera jamais assez silencieux. Et il faut entrer dans ce grand silence du cœur de Marie. Ce grand silence du cœur de Marie qui nous est donné. Vous savez bien combien Marthe tenait à cela pour les foyers. Et comme Marthe a dit, vous faites ce que nous ne pouvons pas faire, je suis persuadé que c'est ça qu'on doit faire. Entrer dans ce silence profond du cœur de Marie, par l'oraison, et spécialement pendant ce temps de l'Avent. Pendant ce temps de l'Avent, c'est cela qu'on doit chercher en premier lieu. Vous voyez, il y a des moments comme ça où, de fait, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière pour renouveler notre soif d'oraison pendant ce temps de l'Avent. Et cette soif de l'oraison, c'est auprès du cœur de Marie. Vous voyez, brûler du temps pour l'Esprit Saint, pour que Jésus vienne prendre possession de votre cœur, pour que Marie soit là présente. N'hésitez pas, c'est jamais perdu, vous savez, dans l'oraison, quand vous brûlez du temps pour l'oraison. C'est jamais perdu, vous lui donnez. Alors soyez très fidèles à ça. Si vous ne pouvez pas être, pour des raisons justement d'adaptation, que vous ne pouvez pas être là le matin à l'oraison, mais reprenez l'oraison pendant la journée. Et soyez fidèles à l'oraison du soir. Ça, tout le monde peut l'être. Tout le monde peut être fidèle à l'oraison du soir. Il faut être fidèle à l'oraison du soir. Parce que c'est nécessaire. Et le matin, on fait un petit effort, et puis on verra pour le temps des vacances, si ceux qui sont trop fatigués peuvent essayer de rattraper un tout petit peu pour que tout le monde puisse avoir quand même un équilibre qui soit bon et sain. Mais il faut faire cet effort. Et n'hésitez pas même de donner plus de temps à l'oraison. Je crois que c'est quand même cela qu'on doit donner en premier lieu ici. Le point de vue de l'intelligence et le développement de l'intelligence se fera d'autant mieux qu'il y a un fond de plus grand silence et une exigence d'amour plus grande. Parce que ce silence est un silence d'amour, hein. C'est le silence de Marie pendant tout ce temps de l'Avent. C'est ce grand silence d'où jaillit le Magnificat. Il ne faut pas l'oublier. Le Magnificat, c'est la prière de l'Avent. Et c'est la joie de l'Avent. C'est la note particulière de l'Avent. Ce qui fait que le temps de l'Avent est un temps de joie. Beaucoup plus que de pénitence. C'est un temps de joie. Que ce soit un temps où on offre plus de temps au Seigneur, ça c'est une bonne pénitence. Mais c'est un temps de joie, parce que c'est Marie qui a cette soif. C'est un temps aussi de pénitence. La joie et la pénitence vont... Je veux dire un temps de pauvreté. C'est un temps de pauvreté, le temps de l'Avent. Et alors là aussi, on doit faire attention de se renouveler dans la pauvreté, dans l'esprit de pauvreté, qu'on essaie de faire que cet esprit de pauvreté s'incarne dans des petits riens, vous savez. C'est, quand on est nombreux, la moindre petite dépense supplémentaire se répercute parce qu'il y a un esprit d'imitation, et l'inverse aussi. Dès qu'on fait un tout petit peu d'attention, alors immédiatement, il y a quelque chose qui se fait mieux. Et c'est bon. C'est un témoignage que le monde attend aujourd'hui, le témoignage d'une vraie pauvreté. Parce qu'on ne peut pas supporter des religieux qui vivent dans un certain luxe ou un certain bien-être un peu exagéré. On aime de voir des religieux qui, de fait, ont une vie assez austère. Et cette vie austère, alors on ne va pas la montrer exprès, hein, avoir de vieux habits pour quand on va dehors et de beaux habits quand on est à l'intérieur. Enfin, non, on ne fait pas ça et on ne le montre pas, mais on maintient une certaine austérité, une certaine pauvreté, du cœur avant tout. Mais on a besoin de l'incarner, surtout au début, au noviciat, on a besoin de l'incarner, et c'est bon, dans sa cellule, dans sa chambre, que ce soit bien, que ce soit net, que ce soit propre, que ce soit quelque chose, tout ça fait partie de la pauvreté, et ça fait partie de la pauvreté de l'avant. Et pendant le temps de l'avant, il faut entrer dans ce temps où Marie, dans la prière, portait son fils bien-aimé. Vous voyez, il faut que notre avant, pour Saint Jean, soit quand même très marqué par cette soif de silence, cette soif de la présence de Jésus. Ça fait partie de notre esprit d'oraison et de contemplation. Avoir soif de la présence de Jésus, qu'il demeure au plus intime de notre cœur. Le Christ habite en nous par la foi. Et dans la contemplation, dans ce désir de contemplation, dans ce désir d'oraison, il faut que nous revenions profondément à cela. Il habite en nous par la foi. Il a habité en Marie en premier lieu par sa foi. Vous savez bien la fameuse parole de saint Augustin et de saint Ambroise qui est si forte, « Prius concepit in corde quam incarne ». Elle a d'abord conçu dans son cœur, c'est-à-dire dans sa foi, la présence de Jésus pour Marie est en premier lieu pendant tout ce temps de l'Avent une présence de foi. C'est-à-dire une présence dans sa foi contemplative. Elle a adhéré à ce don que le Père lui a fait. Là, il y a une communion avec Marie. Hein. Marie est bien heureuse dans sa foi, et nous devons être bien heureux dans notre foi. Et nous devons entrer dans cette béatitude de la foi. Ça fait partie du mystère de l'Avent. Comprendre que Jésus est présent dans notre foi, dans notre espérance, au plus intime de notre cœur. Il est présent parce que le Père nous le donne et que le Père nous demande de le recevoir et d'en vivre à la suite de Marie. Et pour recevoir Jésus comme Marie l'a reçu, il faut notre fiat. Il faut que nous puissions dire en toute vérité, oui, Seigneur, oui au Père, fiat mihi secundum verbum tuum, insistez beaucoup là-dessus, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça l'attitude contemplative, c'est de nous remettre radicalement et totalement à la volonté du Père. On ne peut vivre de la contemplation et de cet esprit de contemplation que si on s'en remet totalement au bon plaisir du Père. On demande à la volonté du Père de se réaliser en nous. C'est ça qu'il faut demander, c'est que la volonté du Père se réalise en nous et qu'elle prenne possession plénière de nous. Non pas selon notre plan, nos projets, nos désirs, mais selon le bon plaisir du Père. Je crois que c'est cela que Marie vit pendant l'Avent. Elle le vit d'une façon étonnante, avec un tel réalisme. Alors ça, évidemment, ça c'est très unique pour Marie, ce réalisme du mystère de l'Avent en Marie, qui fait que Marie vit cette présence divine dans sa foi, et elle vit cette présence sensible dans sa chair. Son fils bien-aimé, son tout petit enfant, elle le porte, elle le nourrit. C'est le Fils de Dieu et c'est son Fils. Et c'est bien cela le point de départ de la vie contemplative chrétienne. C'est comme ça que Dieu nous enseigne ce qu'est la vie contemplative. C'est à travers tout ce mystère de l'Avent. Nous savons que Jésus est présent. Nous savons qu'il nous est donné. Concrétisons cela comme Marie. Marie était petite servante. Mais soyons serviteurs de Dieu, spécialement pendant l'Avent. Alors pendant l'Avent, le service qu'on nous demande, les différents services qu'on nous demande, eh bien on le fait avec grande joie. Si à certains moments dans notre vie, on le fait avec moins de grande joie, il faut que pendant l'Avent, on le fasse avec une grande joie. On est très heureux de donner du temps à Dieu. Vous savez, quand on vous demande un service, vous êtes sûr que ce temps n'est pas perdu. Tandis que quand on ne vous demande pas de service, vous ne pouvez pas être sûr toujours qu'il n'est pas perdu. Tandis que là, vous êtes sûr, et donc vous devez être dans la joie. Vous êtes dans la joie de donner ce temps, et de savoir que ce temps, vous le faites parce que vous obéissez. Tout ce qui est fait dans l'obéissance est brûlé par l'amour. Et si donc tout ce qui est fait par l'obéissance est brûlé par l'amour, c'est quelque chose d'éternel. C'est vraiment le mystère du Christ qui s'empare de vous. Et là, vous êtes tout proche de Marie. Plus Marie s'approche de Noël, plus elle est mobilisée. C'est merveilleux, ça. Voyez comment la contemplation augmente avec l'intensité du service. Une fois qu'on a compris ça, ça nous aide pas mal. Plus le service est intense, plus la contemplation peut être intense. Le service qui nous est demandé. Ah, il faut faire attention, il ne s'agit pas soi-même d'en faire de trop. Mais quand c'est imposé par Dieu, quand c'est vraiment la volonté de Dieu qui nous le demande, et qu'on est pris par un service qui nous talonne, quand on n'a plus une minute à soi, plus une minute à soi, Marie n'avait plus une minute à elle. Quand on regarde ce que peut être cette attente de Marie à l'égard de son fils bien-aimé, on peut dire que Marie n'avait plus une minute à elle. Alors on pourrait dire qu'à ce moment-là, on est beaucoup trop pris pour contempler. Eh bien, c'est la fameuse tentation permanente d'opposer le travail et la contemplation. C'est une tentation permanente, ça. N'importe quel travail, hein, le travail intellectuel, comme le travail manuel, comme le travail de la cuisine, des épluchages, et un tas de choses comme ça. On oppose, nous. Notre dialectique va jusque-là. Elle oppose pratiquement le travail et la contemplation. Parce qu'on est habitué à dire la contemplation, c'est le repos. Et le travail, c'est pas le repos. Alors on oppose le travail et le repos. Attention, la contemplation, c'est vrai. C'est bien le repos dans le sens que notre âme peut se reposer dans la volonté du Père. Notre âme peut se reposer dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, c'est sûr. Mais c'est une activité d'amour. C'est nous-mêmes qui nous donnons. Et c'est nous-mêmes qui voulons être entièrement donnés dans des actes de foi, d'espérance et d'amour, dans une soif d'être entièrement brûlés par le cœur de Jésus. Il n'y a pas d'opposition entre travail et contemplation. Quand le travail que nous faisons est un travail qui est dans l'obéissance. Alors, une fois qu'on comprend ça, on a soif au milieu du travail qui nous est demandé de faire pénétrer au plus intime de notre cœur une lumière d'amour pour que notre travail, loin de s'opposer à la contemplation, soit pour nous un moyen, une disposition à nous mettre plus dociles à l'égard de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est très fort ça pendant le temps de Noël, pendant le temps de l'Avent. Ça doit être très fort ça, quand on regarde la manière dont Marie a été mobilisée. Et regardez, hein, parce que ça fait partie de ce temps de l'Avent, cet édit de César, c'est quand même tellement mystérieux. Quand même très mystère, on comprend très bien, il fallait que nécessairement Jésus naisse à Bethléem, c'est sûr. Alors on dit qu'il fallait bien l'édit de César, c'est sûr. Et il y en a qui disent qu'on l'a rajouté après, apologétiquement. Vous voyez, ça fait partie de certaines inventions exégétiques. Non, c'est pas comme ça. C'est la volonté du Père. Le Père aurait pu changer l'annonciation comme il le voulait. C'était facile. Pour que l'édit de César soit moins gênant. C'était plus facile pour le Père de modifier son plan que de changer la volonté de César, n'est-ce pas? Et donc, c'était facile pour le Père de modifier, ça c'était très facile, il n'y a aucune difficulté. Et non, il a voulu que ce soit comme ça, cet édit de César, pour bien nous faire comprendre, là encore, vous voyez, que même des contrariétés extérieures, parce que l'édit de César, c'est quand même une contrariété extérieure, même des contrariétés extérieures ne doivent pas nuire à notre contemplation. Les contrariétés extérieures, pour nous, ça nous met de mauvaise humeur. Hein, c'est évident. C'est quelque chose qui vient en opposition avec notre projet, avec nos désirs, avec nos opinions. Donc ça nous blesse. Alors ça nous met en colère, ou en mauvaise humeur, si vous voulez. Et on n'est plus aussi souple à l'égard de l'Esprit Saint. Et on ressasse au-dedans de nous-mêmes telle ou telle petite chose qui nous déplaît. Et à ce moment-là, notre âme n'est plus limpide. C'est nous qui diminuons, freinons l'action de l'Esprit Saint par nos mauvaises humeurs, nos murmures. Parce que les mauvaises humeurs sont souvent des murmures. Hein. Nos murmures, on murmure contre telle ou telle chose. On aurait pu nous prévenir, on ne nous a pas prévenus. On aurait pu nous le dire, on ne l'a pas dit. Alors que j'étais directement intéressé. Vous voyez, des choses comme ça, quoi, qui sont nos murmures, quoi. À la place qu'on soit blessé, c'est normal. Mais on ne s'y arrête pas. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire? L'édit de César. Moi, il faut beaucoup penser à l'édit de César. Parce que pour Joseph et pour Marie, ça tombe très bien, l'édit de César. Hein. Et l'édit de César n'a rien changé à la contemplation de Marie. Que Marie soit Nazareth, que Marie soit sur la route de Nazareth à Bethléem, à cause de l'édit de César, ça n'a rien changé à sa contemplation. Elle est restée la même, n'ayant qu'un seul désir, c'est de vivre de ce que le Père lui demandait de vivre, d'être la mère de son fils bien-aimé. Et Marie s'appuie entièrement sur la volonté du Père. C'est essentiel, cela. Parce que nous sommes tellement sensibles à cela. Alors l'édit de César, vous voyez, ça prend des formes très différentes dans nos vies. Hein. C'est pas César, ça ne va pas jusque-là. Hein. Mais ça fait d'autres choses, des petits Césars qui sont là. Des petites modifications dans la prière liturgique. Hein. Ça peut arriver, ça, des petites modifications dans la prière liturgique. Alors, ça nous blesse parce qu'on nous aurait pu quand même nous demander. Ou bien, ça s'est fait... On voit très bien ces choses-là. Je prends ça parce que la vie liturgique est toujours quelque chose qui touche notre sensibilité d'une façon plus immédiate. Surtout ceux qui doivent être responsables, et comme chantres, et qui doivent porter un peu plus. Alors, c'est normal qu'on le sente. Ce serait dommage de ne pas sentir dans sa sensibilité religieuse, pas artistique, mais religieuse, ce que représente la grandeur de la liturgie, la beauté de la liturgie, ou au contraire, les petits manques, les petits ratés de la liturgie. C'est normal qu'on le sente, mais il faut comprendre que ça demande d'être offert, brûlé, dépassé, pour maintenir cette présence dans la joie. Dans la joie, il y a une présence qui doit demeurer. Dans la joie, que nous soyons tout proches du cœur de Marie qui contemple dans sa foi son espérance et son amour, qui contemple dans la pauvreté celui qu'elle porte, qui est son Dieu, et que nous devons nous contempler avec elle, et que nous devons aimer avec elle, et que nous devons avoir un souci d'offrir toute notre générosité, toutes nos capacités d'aimer, pour que nous soyons plus proches. Il faut beaucoup, beaucoup demander pendant tout ce temps de l'Avent à la Vierge Marie, constamment, de nous donner cette soif d'une contemplation qui dépasse nos sensibilités liturgiques, nos sensibilités de serviteurs, que nous dépassions tout cela pour entrer dans une contemplation vraie. Dieu se sert de l'édit de César pour purifier, pour dépouiller. Mariette est beaucoup plus dépouillée. Et Dieu se sert de cela par rapport à Joseph. Ça a dû être très rude pour Joseph, ce que représentait l'édit de César. À la fois une très grande joie, parce que Joseph a eu sûrement une très grande joie de retourner à Bethléem. Et dans le fond de son cœur, il a dû en voir une confirmation. De voir que le fils de Marie, celui qu'il a attendu avec tant d'amour, celui qu'il portait avec tant d'amour, celui aussi qui a été pour lui source de souffrance, faut pas oublier, l'enfant Jésus présent en Marie a été pour Joseph source d'angoisse. Parce que Joseph ne savait pas très bien ce qu'il devait faire, comment il devait agir. Et sûrement, là, pour Joseph, quelque chose de très dur à porter. Et c'est pour ça qu'il l'aime d'autant plus. Et qu'il est d'autant plus celui qui est vigilant auprès de Marie, pour être sûr qu'elle ne manque rien. L'ange lui a demandé cela. Lui a demandé d'être vraiment celui qui soit là pour exercer cette autorité. Pour Joseph et Marie, cette contrariété est dépassée. Et c'est dans la limpidité de leur cœur qu'ils attendent l'enfant Jésus. C'est dans la limpidité de leur cœur qu'ils veulent être là, présents, immédiatement près de lui. Vous voyez, la contemplation réclame, la contemplation chrétienne réclame cette présence. Et si Dieu s'est donné comme un tout petit enfant, et si ceci fait partie des secrets que Marie veut que nous vivions, Marie, en nous étant donnée, c'est bien celle de la croix, mais c'est aussi celle de Bethléem et de tout l'avant. Et si Dieu a voulu cette petitesse, c'est pour être plus proche de Marie, et donc être plus proche de nous. Ce mystère de petitesse de l'enfant Jésus, c'est pour la proximité de l'intimité. C'est pour une proximité d'amour de notre cœur à l'égard du cœur de Jésus. C'est pour que Jésus soit plus proche, pour que nous ayons moins peur, pour que toute crainte soit bannie et que nous puissions aller tout proche de lui et vivre davantage de ce que représente cette présence aimante. Il faut que nous comprenions que Jésus se donne dans cette petitesse pour être plus intimement présent à nous, pour pouvoir se donner ensuite comme pain et comme pain eucharistique. Mettre bien en parallèle ces deux avants, ou ces trois avants, si vous voulez, pour Marie, parce qu'il y en a de fait trois. Il y a le premier, celui que nous vivons maintenant. Il y a l'avant avant la résurrection. Et puis il y a l'avant de Marie qui attend d'être prise par Jésus dans sa gloire. Et si nous voulons vivre vraiment de l'avant, il faut regarder ces trois avants que nous devons vivre, nous, dans notre avant. Hein. Notre avant implique les trois, ça c'est bien évident. Et ça fait partie de ces trois avants successifs dans le cœur de Marie. Et ces trois avants successifs nous aident à entrer dans ce grand mystère de l'avant qui doit être le temps de l'Église. Et le temps de l'Église implique les trois. Demandez alors à Marie de vous donner cette très grande audace au niveau contemplatif, cette très grande soif au niveau contemplatif, de tout reprendre dans la lumière du cœur de Marie, de ne rien abandonner, mais de tout garder avec beaucoup, beaucoup d'amour.